Balzac, les chondrolatiques, l'héritier du diable. Il y avait alors un bon vieux chanoine de Notre-Dame de Paris, lequel demeurait en un bon logis à lui, proche Saint-Pierre-aux-Bœufs, dans le Parvis. Cet huit chanoine était venu simple prestre à Paris, nu comme dague sauf la gaine. Mais vu qu'il se trouvait être un bel homme, bien garni de tout et complexionné si plantureusement que par aventure il pouvait faire l'ouvrage de plusieurs sans trop s'embrécher, il s'adonna très fort à la confession des dames, bâillant aux mélancoliques une double absolution, aux maladives une drachme de son baume, à toute une petite friandise. Il fut si bien connu pour sa discrétion, sa bienfaisance et autres qualités ecclésiastiques qu'il eut des pratiques à la cour. Lors, pour ne point réveiller la jalousie de l'officialité, celle des maris et autres, bref, pour enduire de sainteté ses bonnes et profitables menées, la maréchale d'Équerde lui bailla un os de Saint-Victor en vertu duquel os tous les miracles du chanoine se parfaisaient. Et au curieux, il était répondu « Il y a un os qui guérit de tous. Il guérit de tous. » Et à ce, personne ne trouvait rien à redire, pour ce qui n'était point séant de soupçonner les reliques. À l'ombre de sa soutane, le bon prêtre eut la meilleure des renommées, celle d'un homme vaillant sous les armes. Aussi vécut-il comme un roi, battant monnaie avec son goupillon et transmant l'eau bénite en bon vin. De plus, il était couché parmi tous, etc., des notaires et testaments, ou dans les codicilles, qu'aucun ont écrit codicille, C-I-L-E, faux serment vu que la mot est issue de caoda, comme si disiez la queue des legs. Finalement, le bon Frocard eût été fait archevêque s'il eût seulement dit par raillerie « Je voudrais bien mettre une mitre pour couvre-chef, afin d'avoir plus chaud à la sieste. » Ainsi, de tous les bénéfices à lui offerts, il n'était qu'un simple canonicat pour se réserver les bons profits de ses confessades. Mais un jour, le courageux chanoine se trouva faible des reins, vu qu'il avait bien 68 ans, et de fait avait usé bien des confessionnaux. Alors, se remontevant toutes ses bonnes œuvres, il crut pouvoir cesser ses travaux apostoliques, d'autant qu'il possédait environ 100 000 écus gagnés à la sueur de son corps. Dès ce jour, il ne confessa plus que les femmes de haut lignage, et très bien. Aussi, disait-on à la cour, que, malgré les efforts des meilleurs jeunes clercs, il n'y avait encore que le chanoine de Saint-Pierre-aux-Bœufs pour bien blanchir l'âme d'une femme de condition. Puis, enfin, le chanoine devint par force de nature un beau nonagénaire, bien neigeux de la tête, tremblant des mains, mais quand comme une tour. Ayant tant craché sans tousser, qu'il toussait alors sans pouvoir cracher, ne se levant plus de sa chair, lui qui s'était tant levé par humanité, mais buvant frais, mangeant rude, ne sonnant mot, ayant toutes les apparences d'un vivant chanoine de Notre-Dame. Vu l'immobilité de ce sudit chanois, vu les relations de sa vie mauvaise, qui, depuis un peu de temps, courait parmi le menu peuple toujours ignare, vu sa réclusion muette, sa florissante santé, sa jeune vieillesse et autres choses longues à redire, il n'y avait aucune gens lesquels, pour faire du merveilleux et nuire à notre sainte religion, s'en allaient, disant que le vrai chanoine était piéça défunt, et que depuis plus de 50 ans, le diable logeait au corps du dit fracard. De fait, il semblait à ses anciennes pratiques que le diable seul avait pu, par sa grande chaleur, fournis aux distillations hermétiques que se ramentevaient avoir obtenues à leur souhait de ce bon confesseur, qui toujours avait le diable au corps. Mais comme ce diable était notablement cuit et ruiné par elle, et que pour une reine de 20 ans il n'aurait pas bougé, les bons esprits et ceux qui ne manquaient point de sens, ou les bourgeois qui raisonnaient sur toute chose, gens qui trouveraient des poux sur tête chauve, demandaient pourquoi le diable restait sous forme de chanoine, allait à l'église Notre-Dame aux heures où vont chanoine, et s'aventurait jusqu'à gober les parfums de l'encens, goûter à l'eau bénite, puis mille autres choses. À ces propos hérétiques, les uns disaient que le diable voulait sans doute se convertir, et les autres qu'il demeurait en façon de chanoine pour se moquer des trois nerveux et héritiers de ce susdit brave confesseur, et sur faire attention jusqu'au jour de leur propre trépas la succession ample de cet oncle vers lequel ils se déportaient tous les jours, alors regarder si le bonhomme avait les yeux ouverts. Et de fait, le trouvait toujours l'œil clair, vivant et agaçant comme l'œil de basilic, ce qui les divertissait beaucoup, vu qu'ils aimaient très fort leur oncle en parole. À ce sujet, une vieille femme racontait que, pour sûr, le chanoine était le diable, pour ce que deux de ses neveux, le procureur et le capitaine, conduisant à leur nuit leur oncle, sans falot ni lanterne, retourné d'un souper chez le pénitencier, l'avaient fait, par inadvertance, trébucher dans un bon tas de pierres amassées pour élever la statue de Saint-Christophe. D'abord, le vieillard avait fait feu en tombant, puis c'était, au cri de ses chers neveux et aux lueurs des flambeaux qu'ils vinrent quérir chez elle, retrouvé debout, droit comme une quille et gai comme une espérillon, disant que le bon vin du pénitencier lui avait donné le courage de soutenir ce choc et que ses os étaient bien durs et avaient eu des assauts plus rudes. Les bons neveux, le cuidant mort, furent bien étonnés et virent que le temps ne viendrait pas facilement à bout de casser leur oncle, vu qu'à ce métier les pierres avaient tort. Aussi ne l'appelait-il pas leur bon oncle à faux, vu qu'il était de bonne qualité. Aucune méchante langue disait que le chanoine avait trouvé tant de ses pierres sur son passage qu'il restait chez lui, pour n'être point malade de la pierre, et que la crainte du pire était la cause de sa réclusion. De tous ces dires et rumeurs, il compte que le vieux chanoine, diable ou non, demeurait en son logis, ne voulait point trépasser et avait trois héritiers avec lesquels il vivait comme avec ses sciatiques, maux de rein et autres dépendances de la vie humaine. Des dix trois héritiers, un était le plus mauvais soudard qui fut issu d'un ventre de femme, et il avait dû bien déchirer l'étoffe de sa mère en cassant sa coquille, vu qu'il était sorti de là avec des dents et du poil. Aussi mangeait-il aux deux temps du verbe, le présent et l'avenir, ayant des garces à lui, dont il payait les escoffions, tenant de l'oncle pour la durée, la force et le bon usage de ce qui est souvent de service. Dans les grosses batailles, il tâchait de donner des orions sans en recevoir, ce qui est et sera toujours le seul problème à résoudre en guerre. Mais il ne s'y épargnait jamais, et de fait, comme il n'avait point d'autre vertu hormis sa bravoure, il fut capitaine d'une compagnie de grands lances et fort aimé du duc de Bourgogne, lequel s'enquérait fort peu de ce que faisaient alias ses soudards. Cet huit neveux du diable avait nom le capitaine Cochegru, et ses créanciers, les lourdiers, bourgeois ou autres, dont il crevait les poches, l'appelait le mot singe. Vu qu'il était malicieux autant que fort, Mais il avait de plus le dos gâté par l'infirmité naturelle d'une bosse. Il ne fallait point faire mine de monter dessus pour voir plus loin, car il vous aurait navré sans conteste. Le second avait étudié les coutumes et, par la faveur de son oncle, était devenu bon procureur et plaidait au palais où il faisait les affaires des dames que jadis le chanoine avait le mieux confessées. Cet huit-là se nommait Pilgru, pour le railler sur son vrai nom qui était Cochegru, comme celui du capitaine son père, R. Pilgru avait un chétif corps, semblait lâcher de l'eau très froide, était pâle de visage et possédait une physionomie en manière de bec de fouine. Ce néanmoins, il valait bien un denier de plus que ne valait le capitaine, et portait à son oncle une peine d'affection. Mais depuis environ 2 ans, son cœur s'était un peu fêlé et, goutte à goutte, sa reconnaissance avait fui. De sorte que, de temps à autre, quand l'air était humide, il aimait à mettre ses pieds dedans les chaussons de son oncle et apprécier par avance le jus de cette tant bonne succession. Lui et son frère le Soudard trouvaient leur part bien légère, vu que loyaumement, en droit, en fait, en justice, en nature et en réalité, besoin était de donner la tierce partie du tout à un pauvre cousin, fils d'une autre sœur de chanoine, lequel héritier, peu aimé du bonhomme, restait au champ où il était berger près de Nanterre. Cet huit gardien de bêtes, paysan à l'ordinaire, vint en ville sur l'avis de ses deux cousins, qui le mirent en la maison de leur oncle, dans l'espoir que, tant par ses âneries, lourderies, tant par son défaut d'engin, tant par son mal talent, il serait déplaisant au chanoine qui le mettrait à la porte de son testament. Donc ce pauvre chicon, comme avait nom le berger, habitait lui seul avec son vieil oncle depuis 1 mois environ, et trouvant plus de profit ou de divertissement à garder un abbé qu'à veiller sur des moutons, se fit le chien du chanoine, son serviteur, son bâton de vieillesse, lui disant: Dieu vous conserve quand il pétait, Dieu vous sauve quand il éternuait, et Dieu vous garde quand il rôtait. Allant voir s'il pleuvait, où était la chatte, restant muet, écoutant, parlant, recevant les tousseries du bonhomme par le nez, l'admirant comme le plus beau chanoine qui fût au monde, le tout du cœur en bonne franchise, ne sachant point qu'il le léchât à la manière des chiennes qui époussettent leurs petits. Et l'oncle, auquel ne fallait point apprendre de quel côté du pain était la fripe, rebutait ce pauvre chicon, le faisait virer comme un dé, toujours appelant chicon et toujours disant à ses autres neveux que ce chicon l'aidait à mourir, tant balourd qu'il était. Là-dessus, oyant cela, Chicon se démenait à bien faire à son oncle et s'esquisait l'entendement à le mieux servir. Mais comme il avait l'arrière-train formulé comme une paire de citrouilles, était large des épaules, gras des membres, peu dégourdi, il ressemblait davantage au sieur Silène qu'un léger Zéphyrus. Au fait, le pauvre berger, homme simple, ne pouvait se repaître. Aussi restait-il gros et gras en attendant la succession pour se maigrir. Un soir, monsieur le chanoine discourait sur le compte du diable et sur les grèves, angoisses, supplices, tortures, etc., que Dieu chauffait pour les damnés. Et le beau chicon, écoutant d'ouvrir des yeux grands comme la gueule d'un fourrasse de vie, sans en rien croire: Verrez, fait le chanoine, n'es-tu pas chrétien? Pédant, oui, répondit chicon. Eh bien, il y a un paradis pour les bons, ne faut-il point un enfer pour les méchants? Oui, monsieur le chanoine, mais le diable n'est point utile. Si vous aviez séant un méchant qui vous mettait tous en dessus dessous, ne le bouteriez-vous point dehors? Ah oui, Chicon. Oh, monsieur mon oncle, Dieu serait bien rigaud de laisser dans cette huit monde qu'il a si curieusement bâti une abominable diable spécialement occupé à lui gâter tout. Point, je ne reconnais point le diable si un bon Dieu. Fiez-vous là-dessus. Oh, je voudrais bien voir le diable. J'ai point peur de ses griffes. Ah, mais si j'étais dans ta fiance, je n'aurais eu le souci de mes jeunes ans, où je confessais bien 10 fois par chacun jour. Mais confessez encore, monsieur le chanoine. Je vous affirme que ce sont leurs mérites précieux là-haut. Oh là là, est-ce vrai? Mais oui, monsieur le chanoine. Mais tu ne trembles point, Chicon, de nier le diable? Bon, je m'en soucie comme d'une gerbe de fer. Mais il t'adviendra du déplaisir de cette doctrine. Nullement, Dieu me défendra bien du diable, parce que je le crois plus docte et moins bête que le font les savants. Là-dessus, les deux autres neveux entrèrent. Et reconnaissant à la voix du chanoine qu'il ne haïait point trop Chicon et que les doléances qu'il faisait à son endroit étaient de vraies singeries pour déguiser l'affection qu'il lui portait, se regardèrent bien étonnés. Puis, voyant leur oncle en train de rire, ils lui dirent « Si vous veniez attester, à qui laisseriez-vous la maison ?»« À Chicon !» Et les sorciers de la rue Saint-Denis, ben Chicon. Et le fief de Villeparisis, Chicon. Mais, fit le capitaine de sa grosse voix, tout sera donc à Chicon. Non, répondit le chanoine en souriant, parce que j'aurais beau tester en bonne forme, mon héritage sera au plus fin de vous trois. Je suis si près de l'avenir que j'y vois alors clairement vos destins. » Et le rusé chanoine jeta sur Chicon un regard malicieux, comme aurait pu faire une linotte coiffée à un mignon pour l'attirer en son clapier. Le feu de cet œil flambant éclaira le berger, qui dès ce moment eut l'entendement, les oreilles tout débrouillées et la cervelle ouverte comme est une pucelle le lendemain de ses noces. Le procureur, le capitaine, prenant ses dires pour prophétie d'évangile, tirèrent leur révérence et sortirent du logis, tout chicanés des visées saugrenues du chanoine. « Que penses-tu de Chicon ?» dit Pilgru au mot singe. « Ben, je pense, fit le soudard en grondant, que je pense à mon busquet dans la rue de Jérusalem. » Pour lui mettre la tête à la tempe de ses pieds, il recollera, si bon lui semble. Oh, fit le procureur, t'as une façon de blessure que se reconnaîtrait, on dirait, c'est coche-grue. Non, moi, je songeais à le convier à un dîner, après lequel nous jouerions à nous bouter dans un sac à cette fin de voir, comme chez le roi à qui marcherait mieux assis accoustré. Puis l'ayant cousu, nous le protecterions dans la Seine en le priant de nager. Cela veut être bien mûri, reprit le soudard. Oh, c'est tout mûr, fit l'avocat. Le cousin étant au diable, Loiry sera pour alors nous, entre nous deux. Je veux bien, dit le batailleur. Mes besoins seront d'être ensemble comme deux hommes d'un même corps. Car si tu es fin comme soi, je suis fort comme acier et les dagues valent bien les lacets. Voyez ça, mon bon frère. Oui, fut l'avocat. La cause est entendue. Allez, maintenant, sera-ce le fil ou le fer? Eh, ventre Dieu, est-ce donc un roi que nous avons à faire? Pour un simple lourdeau de berger, faut-il tant de paroles? Alors, 20 000 francs sur Loiry. À celui de nous qui le premier l'aura descoupé. Je lui dirai de bonne foi, ramasse ta tête. Et moi, nage, mon ami, s'écria l'avocat en riant, comme la fente d'un pourpoint. Puis ils s'en allèrent souper, le capitaine chez sa gouge, et l'avocat chez la femme d'un orfèvre de laquelle il était l'amant. Qui fut ébahi, Chicon? Le pauvre berger entendait le devis de sa mort, encore que ses deux cousins se pourmenassent dans le parvis et se parlassent l'un à l'autre comme un chacun parle à l'église en priant Dieu. Aussi Chicot était fort en peine de savoir si les paroles montaient ou si ses oreilles étaient descendues. « Entendez-vous, monsieur le chanoine ?»« Oui, fit-il, j'entends de loin le bois qui sue dans le feu. » « Oh !» répondit Chicot. « Si je ne crois point au diable, je crois en Saint-Michel, mon ange gardien, et je cours là où il m'appelle. « Va, mon enfant, dit le chanoine, et prends garde de te mouiller ou de te faire trancher la tête, car je crois entendre ruisser de l'eau, et les truands de la rue sont pas toujours les plus dangereux truands. » À ces mots, Chicon s'estomira bien fort, et regardant le chanoine, lui trouva l'air bien gai, l'œil bien vif et les pieds bien crochus. Mais, comme il avait à mettre ordre au trépas qui le menaçait, il songea qu'il aurait toujours le loisir d'admirer le chanoine ou de lui rogner les ongles, et il dévala vitement par la ville, comme femme trottant menue devant son plaisir. Ses deux cousins, n'ayant nulle présomption de la science divinatoire, dont les bergers ont maintes bourrasques passagières, avaient souvent de fois deviné, devisé devant lui de leur traînée secrète, le comptant pour rien. Or, un soir, pour divertir le chanoine, Piegru lui avait raconté comment s'y prenait en amour la femme de cet orfèvre à la tête duquel il ajustait très bien des cornes ciselées, brunies, sculptées et historiées comme salières de prince. La bonne damoiselle était, à l'entendre, une vraie moulagoguette, hardie à la rencontre, dépêchant une accolade pendant le temps que son mari montait les degrés sans s'ébahir de rien, dévorant la denrée comme si elle gobait une fraise, ne songeant qu'à utiner, toujours vétillant, frétillant, gai comme une honnête femme à qui rien ne faut, contentant son bon mari, qui la chérissait aussi fort qu'il pouvait aimer son gosier, et fine comme un parfum, et tant que, depuis 5 ans, elle affustait si bien le train de son ménage et le train de ses amours, qu'elle avait renom de près de femme, la confiance de son mari, les clés du logis, la bourse et tout. « Et quand donc jouez-vous de la flûte douce ?» demanda le chanoine. « Oh, tous les soirs, et bien souvent, je couche avec elle. »« Et comment ?» fit le chanoine étonné. « Ben, vessi comme. » Il y a dans un réduit voisin un grand bahut où je me loge. Et quand son bon mari rentre de chez son compère le drapier, où il va souper tous les soirs, pour ce qu'il en fait souvent la besogne près de la drapière, ma maîtresse objecte un peu de maladie, le laisse coucher seul, et s'en vient faire panser son mal dans la chambre au bahut. Et le lendemain, quand mon orfèvre est à sa forge, je dévale, et comme la maison a une issue sur le pont et l'autre en la rue, je suis toujours venu par lui où le mari n'est pas, sous prétexte de lui parler de ses procès que j'entretiens tous en joie et en santé, ne les laissant point filmer. C'est un coquet jarente, vu que les menus frais loués au coût des procédures lui dépassent autant que chevaux en l'écurie. Il m'aime beaucoup, comme tout bon cocu doit aimer celui qui l'aide à bêcher, à rouser, cultiver, labourer le jardin naturel de Vénus, et il ne fait rien sans moi. Or, ces pratiques revinrent en mémoire du berger, qui fut illuminé par une lueur issue de son danger, et conseillée par l'intelligence des mesures conservatoires dont chaque animal possède une dose suffisante pour aller jusqu'au bout de son peloton de vie. Aussi Chicon gagna, de pied chaud, la rue de la Calandre où devrait être l'orfèvre en train de souper avec sa commère. Et après avoir cogné à lui, répondu à l'interrogatoire à travers la petite grille, et s'être dit messager de secret d'État, il fut admis au logis du drapier. Or, venant droit au fait, il fait lever de table le joyeux orfèvre, le détourne dans un coin de la salle et là lui dit « Si un de vos voisins vous plantait un taillis sur le front et qu'il vous fût livré pieds et poings liés, ne le bouteriez-vous point dans l'eau ?»« Très bien, fait l'orfèvre, mais si vous vous gossez de moi, je vous cognerai dur. »« Là, là, reprit Chicon, je suis de vos amis et viens vous avertir que autant de fois vous avez préconisé la drapière de Séan, autant l'a été votre bonne femme par l'avocat Pigru. Et si vous voulez revenir à votre forge, vous y trouverez bon feu. À votre venue, celle qui balaye gentiment ce que vous savez pour le tenir propre, se boutera dehors le grand bahut au hard. Or, fait état que je vous achète le dit bahut et que je serai sur le pont avec un charton à votre commandement. » Le dit orfèvre prit son manteau, son bonnet, faussa accompagné à son compère sans dire un mot, et courut à son trou comme un rat empoisonné. Il arrive et frappe. On ouvre, il entre, monte les degrés en hâte, trouve deux couverts, entend fermer le bahut, voit sa femme, revenant de la chambre aux amours, et alors il lui dit « Mamie, voici deux couverts. »« Eh bien, mon mignon, ne sommes-nous pas deux ?»« Non, fit-il, nous sommes trois. »« Ah, votre compère vient ?» fit-elle en regardant aussitôt par les degrés avec une parfaite innocence. « Non, non, je parle du compère qui est dans le bahut. » « Quel bahut ? » fit-elle. « Mais êtes-vous à votre bon sens ou voyez-vous un bahut ? Mettons des compères dans les bahuts. Suis-je femme à loger des bahuts pleins de compères ? Mais depuis quand les compères logent-ils dans des bahuts ? Rentrez-vous folle pour mêler vos compères et vos bahuts. Je vous connais de compères que Maître Corneille, le drapier, et de bahuts que celle où sont nos hardes. » « Oh !» fit l'orfèvre, « ma bonne femme, il y a un mauvais garçon qui est venu m'avertir que tu te laissais chevaucher par notre avocat et qu'il était dans ton bahut. »« Moi, » fit-elle, « oh, je ne saurais sentir ces chicaniers, ils besognent tout de travers. »« Là, 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 mamie, » reprit l'orfèvre, « je te connais pour une bonne femme et ne veux point avoir de castille avec toi pour un méchant bahut. » Le donneur d'avis est un laitier auquel je vais vendre ce maudit bahut que je ne veux plus jamais voir séant. Et pour celui-là, il m'en vaudra deux jolis petits où il n'y aura pas tant seulement la place d'un enfant. Par ainsi, les méchancetés et humbleries des envieux de ta vertu seront éteintes faute d'aliments. « Vous me faites bien plaisir, » dit-elle. « Je ne tiens point mon bahut, et par aventure, il n'y a rien là-dedans. Notre linge est à la buanderie. Il sera facile d'emporter dès demain matin ce bahut de mes chiffres. Voulez-vous souper ?»« Nenni, » dit-il, « je souperai de meilleur appétit sans ce bahut. »« Ah, je vois, » dit-elle, « que le bahut sortira plus facilement d'ici que votre tête. » « Holà, hé !» cria l'orfèvre à ses forgerons et apprentis. « Descendez !» En un clin d'œil, ces gens furent en pied. Puis lui, le maître, leur ayant commandé brièvement la manutention du dit bahut, le meuble aux amours, fut soudainement transfrété par la salle, mais en passant l'avocat, se trouvant les pieds en l'air, ce dont il avait coutume, trébucha un petit. « Allez, dit la femme, allez, c'est le montant qui bouge. »« Non, mamie, c'est la cheville. » Et sans autre conteste, le bahut glissa très gentiment le long des degrés. « Oula, le charton !» fit l'orfèvre. Et Chicot de venir en sifflant ses mules, et bons apprentis de bouter le bahut processif dessus la charrette. « Hé, hé !» fit l'avocat. « Maître, le bahut parle !» dit un apprenti. « En quelle langue ?» fit l'orfèvre en lui donnant un bon coup de pied entre deux gentillesses qui, heureusement, n'étaient point de pied vert. L'apprenti alla choir sur un degré, de sorte qu'il discontinua ses études en langue de bahut. Le berger, accompagné du bon orfèvre, emmena tout le bagage au bord de l'eau, sans écouter la haute éloquence du bois parlant, et lui ayant adiouté quelques pierres, l'orfèvre le jeta en la Seine. « Nage, mon ami !» cria le berger d'une voix suffisamment raillarde, au moment où le bahut s'humecta en faisant un beau petit plongeon de canard. Puis Chicot continua d'aller par le quai jusque dans la rue du pont Saint-Landry, près du cloître Notre-Dame. Là, il avisa un logis, reconnut la porte et y frappa rudement. « Ouvrez, dit-il, ouvrez de par le roi !» Voyant cela, un vieil homme, qui n'était autre que le fameux Lombard Versoris, accourut à lui. « Qu'est-ce ci ? Fit-il. « Je suis envoyé par le prévôt pour vous prévenir de faire bonne guette cette nuit, répondit Chicot. Comme de son côté il mettra sur pied ses archers. Le bossu qui vous a volé est de retour. Demeurez ferme sous les arbres, car il pourrait bien vous délivrer du restant. » Ayant dit, le bon berger lâcha pied et courut dans la rue des Marmousets, à la maison où le capitaine Cochegru était abanqueté avec la pâquerette, la plus jolie des vilotières et la plus mignonne en perversité, qui fut alors au dire de toutes les filles de loi. Le regard, dit celle, était vif, perçant comme un coup de poignard. Son allure était si chatouilleuse à la vue qu'elle eut mis le paradis en rut. Enfin, elle restait hardie comme une femme qui n'a plus d'autre vertu que l'insolence. Le pauvre Chicot était bien empêché en allant au quartier des Marmousets. Il avait grand-peur de ne point découvrir le logis de la pâquerette ou de trouver les deux pigeons couchés. Mais un bon ange accommodait spécialement les choses à sa guise. Voici comment. En entrant dans la rue des Marmousets, il vit force lumière aux croisées, tête coiffée de nuit dehors et bonne gorge, vilotière, femme de ménage, mari, demoiselle, un chacun, fraîchement levé, se regardant comme si l'on y menait pendre un voleur au flambeau. « Et qui a-t-il ? » fit le berger à un bourgeois, lequel en grande haste était sur sa porte avec une pertuisa dans la main. « Bon, c'est rien, répondit le bonhomme. Nous cuidions que les Arbignacs dévalaient par la ville, mais c'est le beau singe qui bat la pâquerette. »« Où est-ce ? » demanda le berger. « Là-bas, à cette maison, dont les piliers ont en haut des gueules de beaux crapauds. Volant, bien mignonnement engravé. Entendez-vous les valets, les chambérières ?» Et de fait, ce n'était que cri. « Au meurtre, au secours, au là, venez !» Puis dans la maison pleuvaient les coups, et le beau singe disait de sa grosse voix « À mort, la garce ! Tu chantes, Ribaud, ah, tu veux des écus, en voilà !» Et la pâquerette gémissait « Ah, je meurs à moi !» Alors un grand coup de fer, puis la lourde chute du léger corps de la jolie fille sonnèrent et furent suivies d'un grand silence. Après quoi les lumières s'éteignirent. Serviteurs, chambrières, convives et autres rentrèrent, et le berger, qui était advenu à temps, monta les degrés de compagnie avec eux. Mais en voyant dedans la salle haute, les flacons cassés, les tapisseries coupées, la nappe à terre avec les plats, un chacun demeura quoi? Le berger, hardi comme un homme adonné à un seul vouloir, ouvrit lui de la belle chambre et où couchait la pâquerette, et la trouva toute défaite, les cheveux épars, la gorge de travers, gisant sur son tapis, ensanglanté. Puis le mot singe ébahi, qui avait le verbe bien bas, ne sachant plus sur quelle note chanter le reste de son antienne. « Allons, ma petite pâquerette, ne fais point la morte. Viens ça que je te raccommode, ah, sournoise, défunte ou vivante, et si jolie dans le sang que je vais t'assez coller. » Ayant dit, le rusé soudard la prit et la jeta sur le lit. Mais elle y tomba tout d'une pièce, roide comme le corps d'un pendu. Ce que voyant, le compagnon crut qu'il devait tirer sa bosse du jeu. Cependant, le malicieux, avant de lever le pied, dit « Pauvre pâquerette, comment ai-je pu meurtrir une si bonne fille que j'aimais tant? Mais oui, je l'ai tuée, et la chose est claire, car de son vivant, jamais son joli tétin ne se fut laissé choir comme il est. Vrai Dieu, l'on dirait un écu au fond d'un bissac. » Sur ce, la pâquerette ouvrit l'œil et inclina légèrement la tête pour voir à sa chair qui était blanche et ferme. Lors, elle revint à la vie par un grand soufflet qu'elle bâilla sur la joue du capitaine. « Voilà pour médire des morts !» fit-elle en souriant. « Et pourquoi donc vous tutoie-t-il, ma cousine ?» demanda le berger. « Pourquoi demain les sergents viennent tout saisir Léon, et lui, qui n'a pas plus de monnaie que de vertu, me reprochait de vouloir faire plaisir à mon joli seigneur, lequel me doit sauver de la main de justice. Pâquerette, je te romprai les os. Là, là, dit Chicon, que pour lors le mort singe reconnut. N'est-ce que cela? Ou bien, mon bon ami, je vous apporte de notables sommes. Et d'où? Demanda le capitaine Esbahi. Venez ici que je vous parle à l'oreille. Si quelque 30 000 écus se pourmenaient nuitamment à l'ombre d'un poirier, ne vous baisseriez-vous pas pour les serrer afin qu'ils ne se détassent pas? Chicot, je te tue comme un chien si tu te railles de moi, ou je te baise là où tu voudras. Si tu me mets en face de 30 000 écus, quand même besoin serait de tuer 3 bourgeois au coin d'un quai. Mais vous ne tuerez seulement pas un bonnet. Voici le fait. J'ai pour ami en toute loyauté la servante du Lombard qui est dans la cité, proche le loin de notre bon oncle. Or, je viens de savoir, de science certaine, que ce cher homme est parti ce matin au champ, après avoir enfoui sous un poirier de son jardin un bon boisseau d'or, cuidant d'être vu que des anges, mais la fille, qui avait par aventure un grand mal de dents et prenait l'air à sa lucarne, a épié le vieux torsonnier sans le vouloir et a jasé avec moi par milliardise. Si vous voulez jurer de me faire bonne part, je vous prêterai mes épaules à cette fin de grimper hors la crête du mur et de là, vous jetterez sur le poirier qui est jouxtant le mur. « Hein? Direz-vous que je suis un balourd, un bestial? »« Nenni, tu es un bien loyal cousin, un honnête homme. Et si tu as jamais à mettre un ennemi à l'ombre, oui, je suis là, prêt à tuer même un de mes amis pour toi. Je suis non plus ton cousin, est-ce ton frère ?» Holà, mamie! Cria le Maussin et la Pâquerette. Redresse les tables. Essuie ton sang. Il m'appartient. Je te le paye et t'en baillerai du mien 100 fois autant que j'en ai pris. Fais tirer du meilleur, raffermis nos oiseaux effarouchés, rajuste les jupes. Ris, je le veux. Vois au ragoût et reprenons nos prières du soir où nous les avons laissées. Demain, je te fais plus brave que la reine. Voici mon cousin que je veux régaler. Quand, pour ça, besoin serait de jeter la maison par les fenêtres. Nous retrouverons tout demain dedans les caves. Sus, sus au jambon. Lors, et en moins de temps qu'un prêtre n'en met à dire son Dominus vobiscum, tout le pigeonnier passa des larmes au rire, comme il avait passé du rire aux larmes. Il n'y a que dans ces maisons en putanées où se fasse ainsi l'amour à coups de dague, et où s'émeuvent des tempêtes joyeuses entre quatre murs. Mais ce sont choses que n'entendent point les dames à haut collet. Le dit capitaine Cochegru fut gai comme un sang d'écolier au déjuché de la classe, et fit bien voir son bon cousin, lequel avalait tout rustiquement, et trancha de l'homme ivre en débagoulant 1000 sonnettes comme quoi demain il achèterait Paris, prêterait 1000 écus au roi, pourrait fianter dans l'ordre. Enfin, dit tant de bourdes, que le capitaine, redoublant quelques fâcheux aveux, et l'estimant bien défoncé de cervelle, l'emmena dehors en bonne intention, lors du partage, d'entamer Chicon pour voir s'il n'avait point une éponge dans l'estomac, pour ce qu'il venait de humer. Un grandissime carton de bon vin de Suresne, mis à l'air, devisant de 1000 choses théologiques qui s'embrouillaient très fort et finirent par se couler d'un pied muet juste au lit du jardin où étaient les écus du Lombard. Le dit Clochegru, faisant un plancher des vastes épaules de Chicon, sauta sur le poirier, en homme expert et sas au déville, mais vers Soris, qui le guettait, lui fit une entaille à la nuque et le réitéra si durement que, en 3 coups, le chef du dit Cochegru tomba, non sans qu'il eût entendu la voix claire du berger qui lui criait « Ramasse ta tête, mon ami !» Là-dessus, le généreux Chicon, en qui la vertu recevait sa récompense, cuida qu'il serait sage de retourner au logis du bon chanoine, dont l'héritage était, par la grâce de Dieu, méthodiquement simplifié. Donc, il gagna la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs, à grand renfort de pied, et bientôt dormit comme un nouveau-né, ne sachant plus ce que voulait dire le mot « cousin germain ». Or, le lendemain, il se leva, suivant la coutume des bergers, avec le soleil, et vint dans la chambre de son oncle pour s'enquérir s'il crachait blanc, s'il toussait, s'il avait eu bon sommeil. Mais la vieille méchinarde lui dit que le chanoine, entendant sonner les matines de Saint-Maurice, premier patron de Notre-Dame, avait été par révérence en la cathédrale, où tout le chapitre devait déjeuner chez l'évêque de Paris. Sur ce, Chicon respondit « Mais monsieur le chanoine est-il hors de sens d'aller se rafraîchir ainsi ? Gagner des rhumes, m'amasser froid aux pieds, mais veut-il crever ? Oh, je vais lui allumer un grand feu pour le réconforter à son retour. » Et le bon berger saillit dans la salle où se tenait volontiers le chanoine, mais à son grand émoi, le vit si en chair. « Ah, oh, que dit-elle, cette folle de Burette ? Le savez-vous trop bien avisé pour être à cette heure juché en votre stalle du cœur ?» Le chanoine ne sonna mot. Le berger, qui était comme tous les contemplateurs homme de sens caché, N'ignorez point que parfois les vieillards ont de sages lubies, conversent avec les essences des choses occultes, et achèvent de marmotter en dedans d'eux des discours d'autres que ceux dont il s'agit. En sorte que par révérence et en grand respect des méditations absconses du chanoine, il alla ce soir à distance et attendit la fin de ses songeries, en vérifiant, sans mot dire, la longueur des ongles du bonhomme, lesquels faisaient mine de trouer les sauliers. Puis, considérant attentivement les pieds de son cher oncle, il fut ébahi de voir la chair de ses jambes si cramoisie qu'elle rougissait les chausses et semblait tout en feu à travers les mailles. « Il est donc mort !» pensait Chicon. En ce moment, l'huile de la salle s'ouvrit, et il vit encore le chanoine qui, le nez gelé, revenait de l'office. « Oh, oh !» fit Chicon, « mon oncle, êtes-vous hors de sens ?» Faites donc attention que vous ne devez pas être à la porte, parce que vous êtes déjà assis en votre chair au coin du feu, et qu'il ne peut pas y avoir deux chanoines comme vous au monde. Oh, Chicon, il y a eu un temps où j'aurais bien voulu être en deux endroits à la fois, mais cela n'est point du fait de l'homme, il serait trop heureux. As-tu la berlue, mais je suis seul ici. Lors Chicon, en détournant la tête vers la chaire, la trouva vide. Et bien surpris, comme devait le croire, il s'en approcha et reconnut sur le carreau un petit tas de cendres d'où fumait une senteur de soufre. « Oh ! » fit-il tout espanté. « Je reconnais que le diable s'est conduit à mon égard en galant homme. Je prierai Dieu pour lui. » Et là-dessus, il raconta naïvement au chanoine comment le diable s'était diverti à faire de la providence et l'avait aidé à se débarrasser loyalement de ses mauvais cousins. Ce que le bon chanoine admira fort et conçut très bien, vu qu'il avait beaucoup de bon sens encore, et souvent fois avait observé des choses qui étaient à l'avantage du diable. Aussi ce vieux bonhomme de prêtre, disait-il, qui se rencontrait toujours autant de bien dans le mal que de mal dans le bien, et, partant, qu'il fallait être assez nonchalant de l'autre vie, ce qui était une grève hérésie dont main concile a fait justice. Voilà comment les Chicons devinrent riches et purs dans ce temps-ci, par la fortune de leur aïeul, aidés à bâtir le pont Saint-Michel, où le diable fait très bonne figure sous l'ange, en mémoire de cette aventure consignée est-ce histoire véridique.